بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام. On avait commencé la dernière fois le hadith qui est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith dans lequel Allah azza wa jal annonce qu'il y aura sept catégories de personnes qui seront appelées le jour de la résurrection, le jour du qiyama, pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait commencé à expliquer le hadith qui stipule qu'il y aura sept catégories de personnes qui auront la chance, qui auront l'honneur d'être appelées sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'autre protection, il n'y aura pas d'autre endroit où trouver refuge si ce n'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué quelles sont les sept catégories de personnes et on avait commencé donc à voir quelles sont les qualités qui sont communes à ces personnes. Et la première des qualités qu'on avait vues la dernière fois, c'était l'amour et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'amour et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout d'abord, juste pour rappeler les sept personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jal, ce sera tout d'abord un roi qui a été juste, un gouverneur, quelqu'un à qui Allah azza wa jal a accordé l'autorité et qui a fait preuve de justice. Deuxième, c'est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, une personne dont le cœur est attaché à la masjid. Quatrièmement, des gens qui s'aimaient pour Allah. Des gens qui avaient la mahabba, l'entente, l'amour uniquement pour Allah, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième catégorie de personnes, un homme à qui une femme séduisante, une femme belle, une femme de grande famille a fait des avances et que cette personne avait la possibilité donc de faire l'adultère. Mais cette personne s'est abstenue uniquement par crainte d'Allah. فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Cette personne a dit, je crains Allah Azza wa Jal. C'est uniquement pour ça que la personne s'est éloignée du haram. Également, sixième catégorie de personnes, un homme, une personne, un mu'min qui donne la sadaqa, qui donne de l'argent en aumône avec une telle sincérité que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et enfin, une personne qui pense à Allah Azza wa Jal, une personne qui fait le dhikrullah, qui pense à Allah, et cette personne pense à Allah avec tellement d'amour, tellement de dévotion, que cette personne se met à pleurer solitaire en pensant à son Créateur. Donc ça c'est pour résumer les sept catégories de personnes. Alors on avait dit qu'une des qualités qui est commune à ces sept catégories de personnes, c'est qu'ils ont dans leur cœur l'amour pour Allah, la pensée permanente d'Allah et la sincérité. Il y a toutes leurs actions, ils le font uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et quand ils accomplissent une action, ils ont un amour débordant pour Allah. Et on avait dit que ça c'est une qualité très rare. Malheureusement, c'est une qualité qui se perd. Dans un des hadiths qui parle des signes de Qiyama, parmi les petits signes, une des premières qualités qui va quitter cette Ummah, ce sera Al-Khushu', la dévotion. Une des premières qualités qui va quitter cette Ummah, c'est la dévotion. C'est-à-dire quand une personne accomplit une bonne action, il le fait de manière posée, avec concentration, avec conviction qu'Allah l'observe et qu'Allah le rétribue pour la bonne action qu'il attribue. Et quand on a toutes ces qualités, on a cette prise de conscience, l'action sera faite avec, on appelle khushu' et khudu', avec dévotion, concentration, on va s'appliquer. Et comme on avait déjà expliqué, deux personnes peuvent faire la même salat à côté, côte à côte, et une personne, elle est présente physiquement avec le imam, mais son esprit est ailleurs, en train de penser à toutes sortes de choses qui n'a aucun rapport avec l'adoration d'Allah. Et une autre personne qui est en train de faire la même salat, mais qui a un tel degré de concentration que les larmes coulent de ses yeux, qu'à chaque geste, à chaque gestuelle, à chaque position du rukou' ou sujoud, la personne, il sent une motivation qui monte d'étape en étape parce qu'il est en train de faire le rukou', devant Allah Azza wa Jal, il est en train de se prosterner devant son Créateur, devant son Seigneur. Et lorsqu'il va dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ou alors lorsqu'il va dire Subhan Rabbiyal A'la, ou Subhan Rabbiyal Azim, il va ressentir la profondeur de ses adhkars, de ses pensées d'Allah. Et donc sa salat va faire décoller cette personne spirituellement. Ça c'est le khushu', la dévotion. Donc ces gens-là, ils ont cette qualité commune, qu'ils ont dans leur cœur l'amour pour Allah et ils ont une sincérité inébranlable lorsqu'ils accomplissent une bonne action. Et on avait expliqué que la personne qui, le imam Adil, le sultan Adil, le roi, le gouverneur, celui à qui Allah a donné l'autorité et qui fait preuve de justice, m'avait dit que quelqu'un qui est souverain n'a pas de compte à rendre, il n'a pas de supérieur, un roi n'a pas de supérieur. Donc si, malgré cette autorité qu'il a, il fait preuve de justice et d'équité, il n'abuse pas sur les gens, il fait le maximum pour être correct envers les gens, c'est qu'il a la crainte de celui qui est réellement au-dessus de lui. C'est qu'il a la crainte d'Allah et l'amour pour Allah dans son cœur. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui va superviser ses faits, ses gestes, ses actions. C'est vraiment que c'est une personne qui a dans son cœur l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit également qu'un jeune homme, un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, on a dit qu'il y a deux paramètres. Il y a le fait qu'il fait, qu'il accomplisse les bonnes actions, les ibadas, et il y a également le fait qu'il s'éloigne du haram. Et on avait dit que on ne peut pas s'approcher d'Allah uniquement avec de bonnes actions. Si une personne accomplit des bonnes actions, mais en même temps la personne fait autant de péchés, cette personne n'avancera pas. Cette personne n'avancera pas. Et la véritable foi, le véritable taqwa, le ihsan, comme on dit, c'est adorer Allah comme si qu'Allah nous voit. C'est atteindre un tel degré de iman, un tel degré de spiritualité, qu'on est persuadé, intimement conscient, qu'Allah Azza wa Jalla nous observe. Et celui qui a cet état d'esprit, c'était l'état d'esprit des sahaba, la personne n'accomplira pas de péché. Et donc, le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, c'est pas uniquement le jeune qui est à la masjid. Parce que les jeunes à la masjid, il y en a, alhamdulillah. On remercie Allah, dans certains endroits, il n'y a que des personnes âgées qui sont dans les mosquées. Mais alhamdulillah, on a des jeunes. On a des jeunes qui viennent à la masjid, des jeunes qui apprennent le Coran, qui font le hifz. Donc, ça, c'est un motif de fierté, certes. Mais le jeune qui nasha'a fi ibadatillah, c'est pas uniquement qui fait les bonnes actions. C'est un jeune qui également s'éloigne du haram. Parce qu'on va voir que la deuxième qualité qui réunit ces sept catégories de personnes, c'est le contrôle du nafs. C'est as-saytara 'ala an-nafs. La possibilité qu'ils ont de se contrôler, de contrôler leurs pulsions, leurs passions, de telle sorte qu'ils ne mettent pas un pied dans l'illicite. Et donc le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, il fait les bonnes actions, mais en même temps il évite le péché. Et on avait expliqué la dernière fois que les tentations sont nombreuses à cet âge. Hein? On avait dit qu'à cet âge-là, il n'y a pas un moment de la vie de l'être humain où on a autant envie de faire des choses qui sont interdites. Hein? Si ce n'est que pendant ce laps de temps de 15 ans, 25 ans. Et celui qui sait se contrôler par crainte d'Allah, par amour pour Allah, ben il est tout à fait normal, subhanallah, que par la générosité d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui accorde la meilleure des places le jour de la résurrection. Parce que dans les meilleurs moments de sa vie, il n'y a pas un meilleur moment que la jeunesse. Dans les meilleurs moments, les meilleurs jours de sa vie, ce jeune-là a pensé à Allah. Et quand on parle d'un jeune, c'est peut-être un jeune garçon, tout comme une jeune fille. Également, on avait parlé de celui dont le cœur est attaché à la masjid. Ça, je pense pas qu'on avait développé. Celui dont le cœur est attaché à la masjid, qui se sent bien que à la masjid, ça c'est un signe de iman, ça. Parce que le mu'min, quand il est à la masjid, il se sent bien. Et quand il est à l'extérieur, il se sent mal. Il se sent comme un étranger. Celui qui est dans un centre commercial, le bazar, le centre-ville, rien, on ne parle pas d'activité professionnelle, ça, il n'y a aucun problème à ça. Hein. Mais quand le mu'min est en dehors de la masjid, il se sent mal à l'aise. Parce que c'est des endroits où la rahma d'Allah ne descend pas forcément. C'est des endroits où le péché est accompli. C'est des endroits où il y a des choses haram. Il y a des transactions qui sont parfois illicites. Il y a des gens qui s'habillent de manière incorrecte. Où il n'y a pas la pudeur, il n'y a pas la crainte d'Allah. C'est-à-dire les péchés d'une manière générale. Et quand cette personne est dans la masjid, il ressent la quiétude. Mais pour ressentir la quiétude, il faut avoir les capteurs aux bons endroits. Il faut déjà avoir les capteurs. Les bons capteurs dans les cœurs. C'est-à-dire que celui qui va capter la bénédiction, la rahmat d'Allah, c'est quelqu'un dont le cœur est attaché à Allah. Ce qui fait qu'il aime tellement Allah que quand la bénédiction, la rahmat d'Allah vient, c'est comme si son cœur est grand ouvert. C'est comme une éponge qui va absorber ses rahmats. Donc le mu'min, le bon musulman, se sent bien à la mosquée. Il y a des gens. On va pas chaque fois dire tout le temps Moussa Abdine, il y a des gens. Mais non, c'est juste pour qu'on comprenne qu'il y a des cas parfois, il faut se poser des questions et à nous d'analyser est-ce que je n'ai pas ces qualités, ces défauts en moi. Il y a des gens, ils viennent à la masjid, ils font la salah, immédiatement quand l'imam a fait salam, ils doublent, ils disent, ah, c'est comme s'il y a le feu. Et on peut se dire que peut-être que la personne est malgré tout, mais il y a des fois on voit c'est des... régulièrement. La personne il fait la salat et quand le salam est terminé, immédiatement la personne se lève sans accomplir les nawafil. Bon, on peut dire qu'il va accomplir à la maison. Mais bon, il y a des gens malheureusement dans l'Ustan, on sent que la personne, enfin on ne sent pas, on n'a pas le droit de juger, qu'Allah me pardonne, mais qu'il y a des gens qui sont pressés de sortir de la masjid et on les retrouve à l'extérieur en train de faire des débats, des conférences, en train d'échanger sur les pronostics, les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Il y a ni le dunya. C'est-à-dire que la personne ne se sent pas bien dans la masjid. Il a besoin d'aller à l'extérieur. Il y a un jeune qui me posait la question la dernière fois, il me dit que voilà, quand il vient à la salat al-maghrib le samedi soir, vous savez que masjid en ville, samedi maghrib, c'est full. Alhamdulillah, c'est le point de rencontre. C'est une bonne chose. Les jeunes, ils viennent, alhamdulillah. Mais il m'a dit, comme ils savent, on n'arrive pas à concentrer dans la masjid. On n'arrive pas à se concentrer dans la salat. Et quand je retourne chez moi, je me rends compte que ce que j'ai retenu de mon déplacement vers la masjid jusqu'à mon retour chez moi, c'est la conversation avec mes amis sous l'arcade. C'est la seule chose qui me reste en tête. Il m'a dit que c'est, na'udhubillah, il me dit clairement, il dit, c'est le moment que j'ai le plus apprécié. Il m'a dit, quoi il faut faire, Moïsa? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la concentration dans la salat? Ben, il y a des façons, il y a des méthodes pour travailler, pour faire naître la concentration de la salat, pour travailler, pour développer, jusqu'à arriver à un niveau maximum, enfin il n'y a pas de niveau maximum, jusqu'à arriver à un niveau, inshallah, on est vraiment concentré dans la salat. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des gens qui viennent à la masjid, mais après la salat, immédiatement ils sortent. Mais celui dont qalbuhu mu'allaqun bil masajid, c'est quelqu'un qui se sent bien à la masjid. C'est quelqu'un qui passe un maximum de temps à la masjid et qui se sent bien. Bon, de toute façon, cette catégorie de personnes-là, on va développer. Mais ce qu'il y a de le cœur de cette personne, c'est l'amour pour Allah. Si quelqu'un aime la masjid, c'est qu'il aime Allah. Parce que dans la masjid, qu'est-ce qu'on fait? La masjid, on retrouve la racine sin, jim et dal. Sajada, que veut dire? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas cours arabe, deux ans au moins. Il faut reprendre, Inch'Allah. Depuis deux ans, il manque encore absent le jeudi soir. Sajada, c'est se prosterner. Masjid, c'est l'endroit où on se prosterne. D'accord? Celui qui vient, qui aime la masjid, c'est quelqu'un qui aime adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc comprenez qu'il a l'amour pour Allah dans son cœur. On accélère. Al-mutahabuna fillah. La quatrième catégorie de personnes, ceux qui se fréquentent et qui s'apprécient pour Allah. Vous allez dire que oui, mais ça me gagne, ça c'est le plus facile. Non, c'est pas le plus facile. Et parfois on se dit que bon, le premier c'est pas pour nous, c'est un gouverneur. Et quoi que, on verra si on a le temps de développer une prochaine fois, que quand on dit un gouverneur qui est juste, parfois c'est même une personne à qui Allah a donné une autorité, un amir, un responsable qui agit de manière juste et correcte avec les gens qui sont sous sa responsabilité. Là aussi ça fait partie de Imam Adil. C'est pas comme le roi, le dirigeant, le souverain, non, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec. Bref, on se dit que bon, le jeune qui a grandi à la Rochelle, là, dit moi, mais fini arrive 50 ans, trop tard, il m'a fait trop de bêtises. Bon, on va dire que celui dont le cœur est attaché à la masjid, pas trop le temps vient à masjid. Mais quand on dit que ceux qui s'apprécient pour Allah, c'est bon pour moi. Mais non, ça c'est un des plus durs, ça. Les gens qui s'aiment pour Allah, c'est fréquenter quelqu'un, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines, quel que soit son nom de famille, c'est un grand famille ou un petit famille, un famille très connu ou pas connu ou inexistant, d'accord, ou il est le seul spécimen existant à La Réunion, d'accord, qui n'a un super travail. J'accompagne quelqu'un d'éléments, on va pas entrer dans les détails, quelqu'un de tel des impôts, c'est incroyable, les relations, tac, 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 pour avoir des... Adjib. Donc, on se fréquente pour des intérêts. Quelqu'un qui travaille au service des impôts, ou qu'il travaille à la préfecture, ou qu'il travaille à la mairie, ou au conseil régional général, ou quel que soit l'endroit, ou alors qu'il travaille chez lui, il fait la vaisselle, qu'il au RMI ou rien du tout, on ne regarde pas tout ça. C'est un musulman. Et ça, quelle famille, ou hein? À quel gang on sort de Gujarat? À Gujarat, Baruj, ou Tananarive, ça c'est pas un problème, ça. Qu'il soit de Gujarat, qu'il soit Tananarive, qu'il soit à Moscou ou New York, c'est pas ça le pro. Ça c'est pas un paramètre pour voir est-ce que je vais avoir des affinités mohabba avec lui, oui ou non. Voilà, au niveau social, riche, pas riche, cool, marque de sa voiture, est-ce qu'il roule une Mercedes ou il roule ou il marche? Tout simplement, il roule pas, il marche. Tout ça, malheureusement, ce sont des réalités du dunya. Malheureusement, on parle pas de la famille, hein. On parle des amis. La famille, on se fréquente, bien sûr. Mais malheureusement, beaucoup de gens, Allah musta'an, quand on se fréquente, c'est qu'on a quelque chose à gagner avec telle personne. Allah me pardonne, nous pardonne tous. Hada. Mais ceux qui s'aiment pour Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Celui qui sent le lien de fraternité avec le mu'min. Même une personne, on voit une personne qui arrive à la masjid, qui est de je ne sais quel endroit, un voyageur. D'accord ? On va vers lui. Salam alaikum, ça va ? Vous vous appelez comment ? Vous êtes de quel endroit ? Bismillah, vous avez mangé ? Allons manger à la maison. Qui fait ça aujourd'hui ? Dites-moi qui le fait ? Nos grands-parents le faisaient. Nos grands-parents le faisaient. Nos parents aussi peut-être le faisaient. Mais de nos jours, c'est fini. Wallah musta'an. Il y a deux raisons. Pourquoi ? Première raison, c'est que nous vivons que pour ce qui est palpable. Qu'est-ce que j'ai à gagner avec lui ? Puis si c'est un grand monde, quelqu'un de riche, allons manger à la maison. Même si madame n'a pas fait que manger, il dit, mais qu'est-ce pas, débrouille dans 10 minutes, mais il est là. Cuisine, mais amène un grand monde. La bougavède, elle nous paye le loyer, ça m'est sûr. Il va gagner des affaires, il va gagner. Allah musta'an. Qu'est-ce qui fait qu'on a abandonné cette habitude? Alors que notre prophète avait annoncé aux musulmans, excusez-moi, aux sahabas, arrivés à Madina, quelle est la recette magique pour accéder au paradis? Le prophète a dit trois choses. Faire la prière quand les gens niam, quand les gens dorment. Ça, c'est la relation entre le serviteur et son créateur. Ça, personne ne voit ça. Ah, faire salam à tout le monde, ça, c'est le premier pas envers les gens. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Ah, il est un peu trop noir, fait salam. Wali, il ne connaît pas c'est qui, il ne fait pas salam. Pourquoi je ne fais salam? Et ça, on explique, parenthèse sur parenthèse, quand on reçoit des visiteurs, des touristes à la mosquée, à la masjid, on explique c'est quoi? Le salam. La première chose qu'on fait, je vous salue par le salut de l'islam. Quoique bon, c'est pas avec niyat, salam alaikum, mais on explique c'est quoi salam. On explique la différence entre le salam et le bonjour. Vous dites bonjour à quelqu'un le matin, et vous le soir, vous lui dites bonsoir. Si vous le recroisez, il me dit bon, je dis, ah, je t'ai dit bonjour tout à l'heure, c'est fini. Mais le salam, c'est autre chose. C'est un message de paix et d'amour. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Donc, Wazam a dit que faire la salam quand les gens dorment, faire le salam à tout le monde, les gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, expliquait également que donner à manger, it'am ou ta'am, donner à manger aux gens. Et ça, c'est un principe important de l'islam. Ça c'est à la base. Rasulullah a tenu à dire ça aux sahaba en arrivant à Madina. C'est pour qu'on comprenne que c'est par le biais de ces actions qu'on obtient le contentement d'Allah et qu'on obtient le paradis. Vous entrerez au paradis bisalam, avec tranquillité, avec paix. Et de nos jours, qu'est-ce qui fait donc, on revient, que plus personne ne fait ça? Un, parce qu'on n'a rien à gagner avec cet étranger. On n'a rien à gagner, d'accord? Deux, et puis le deux c'est pas notre faute. Le deux, c'est tout ce qu'il y a comme crainte, comme angoisse, tout ce qu'il y a comme l'esprit paranoïa qui est véhiculé par l'Occident, qui fait qu'on a peur de son prochain. Hein, lui, il vient de France, je ne sais pas, est-ce qu'il n'est pas un terroriste dans le fond, je vais l'accueillir chez moi, peut-être qu'il a des relations avec je ne sais pas quel groupe extrémiste, et si on sait qu'il est venu chez moi et tout, on a peur de notre prochain. Ça, ce n'est pas notre faute, malheureusement. Ça, on subit. On subit tout le lavage de cerveau, hein, tout la désinformation qu'il y a autour des gens, hein, la suspicion qui est mise dans le cœur des gens. Il y avait un article sur Facebook dernièrement sur ils ont répertorié les attentats terroristes en un an. On essaie de faire croire que les premiers terroristes au monde sont les musulmans, mais bien au contraire. Bien au contraire. D'accord? Lisez, c'est un article qui a été fait, c'est pas mal du tout. Allah musta'an. Mais l'Occident, les A'da, l'Islam, essaient de nous faire croire que, attention, celui qui est religieux, c'est douteux. Allah musta'an. Donc, celui qui va vers son prochain, qui a de la muhabba, de la compassion uniquement parce qu'il a la ilaha illallah de son cœur, ça c'est une qualité qui est appréciée par Allah, et ces gens-là seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection. Et regardez, c'était la première qualité que le prophète a tenu à ce que les Ansar développent. Quand le prophète a dit que chaque muhajir est le frère de Ansar, le prophète a fait le lien de fraternité entre les arrivés, les gens qui arrivaient, les arrivants de Mecca, et ceux qui les recevaient à Madina, hein, le lien de fraternité, ces gens-là se fréquentaient, ils s'aimaient, ils s'appréciaient pour Allah. Ils n'avaient rien à gagner. Au contraire, en accueillant le prochain, ils savaient qu'ils perdaient, enfin pas qu'ils perdaient, mais qu'ils partageraient ses biens et tout, mais ils savaient qu'il y a le contentement d'Allah quand on s'apprécie pour Allah. Également, la cinquième catégorie de personnes, celui qui donne la sadaqa, hein, sans que personne ne sache, cette personne-là a deux qualités. La première qualité, c'est quoi? C'est que il a eu le contrôle sur shuhunafsi, sur l'avarice, sur sa cupidité. Et ça, c'est quelque chose de dur, ça. Quelqu'un arrive à se détacher de ses biens. Quelqu'un arrive à se détacher de ses biens. Quelle est la chose que l'être humain, l'homme, aime le plus? C'est ses biens, son argent qu'il a gagné. D'accord? Et donc, il peut se détacher de ça, donner pour Allah. Ça, c'est déjà une qualité. Et la deuxième qualité, c'est quoi? C'est qu'il ne demande pas, il ne veut pas que les gens sachent qu'il a donné dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire, malheureusement, les gens aiment l'argent et les gens aiment la célébrité, la renommée. Une personne peut donner une grande somme dans le chemin d'Allah, mais il aimerait bien qu'on sache que c'est lui qui a donné. Mais celui qui donne et qui ne veut pas qu'on sache qu'il l'a donné, ça c'est quelqu'un qui a deux qualités exceptionnelles. Un, il sait faire le mujahada sur ce qu'il aime. Et deuxièmement, il est sincère, il n'a pas besoin d'éloges ou de reconnaissance des gens. Donc une personne comme ça est appelée sous le nom du trône d'Allah le jour de Qiyama. Al-Baki, enfin, Al-Baki min khashyatillah, comprenez que celui qui pleure par amour pour Allah, c'est par excellence celui qui a dans son cœur un amour exceptionnel. Il ressent l'amour pour son créateur dans son cœur. Vous savez, quelqu'un qui pleure par amour pour Allah, hein, ça, ce sont là des sensations qui sont exceptionnelles et uniques. Et personne ne peut ressentir ça. Quelqu'un qui se lève dans la nuit, j'allais dire qui s'isole, quelqu'un qui se lève dans la nuit et qui, dans l'intimité, il fait la salat, qiyam ul-layl, le tahajjud, et qu'il demande à Allah des doigts et que la personne pleure dans ses doigts, ça c'est l'âme qui coule, cette sensation que le mu'min il va ressentir quand il est seul devant son créateur, ça n'a pas de prix, ça ne s'achète pas. Et cette sensation là, une personne qui est riche, qui est célèbre, qui n'a pas iman, ne pourra jamais comprendre c'est quoi pleurer par amour de son créateur. C'est une sensation qui est exceptionnelle, qu'Allah nous fasse ressentir cela un jour, Inch'Allah. J'expliquais à certaines personnes, une fois Allah nous a donné le tawfiq de faire une nuit impaire à Makka, en faisant le doua des Yachir Soudais sur le Mataf. Ce qu'on ressent en ce moment, c'est indescriptible, il n'y a pas de mots pour décrire. J'ai déjà fait des doua de Khatm al-Qur'an, Tarsat al-Tarawih, Makka, Madina, mais une nuit impaire, de Ramadan je parle bien sûr, une nuit impaire qui peut être la nuit du destin, la tul qadr, à Makka, autour de la Kaaba, sur le Mataf, avec le doua à la fin du Qiyam al-Layl, pas le Tarawih, le Qiyam al-Layl, le Tahajjud, vous faites doua, vous êtes devant la Kaaba, et le doua du imam qui est puissant, parce qu'il y a toute sa taqwa qu'on ressent, hein, sa crainte d'Allah, son iman qu'on ressent à travers la manière qu'il fait ses doua, mais c'est des choses qu'on paierait énormément pour retrouver. Mais, Allah musta'an, c'est des états spirituels, c'est comme si que votre âme s'élève. C'est comme si que votre iman s'élève d'un degré extraordinaire et pleurer devient facile. Vous pensez à Allah, vous pleurez. Vous pensez à un péché, vous pleurez. Ça, c'est des états qui ne durent pas longtemps, mais c'est magnifique. Qu'Allah nous fasse connaître, Inch'Allah, ce genre de sensation quand un mu'min peut pleurer par amour pour son créateur. La deuxième qualité, donc ça c'est une première qualité qui est commune à ces personnes, ils ont l'amour pour Allah de leur cœur et ils sont sincères. La deuxième qualité qui est commune à ces sept catégories de personnes, c'est qu'ils ont de leur cœur, on va aller un peu plus vite, ils ont de leur cœur la crainte d'Allah, le khashyatullah. Pour l'imam, on a compris, il a la crainte d'Allah, ce qui fait qu'il n'abusera pas sur ceux qui sont sous sa responsabilité. Et par analogie, le imam, pas le imam qui fait la salah, imam dans le sens celui qui dirige, le amir. Même si c'est un amir, soit 10 personnes, 20 personnes, ou qui dirige un groupe de personnes qui travaillent, le fait de ne pas abuser sur les gens, c'est une preuve de crainte d'Allah dans le cœur de ce amir, de ce responsable. Ce jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, on a expliqué, il va aller à l'encontre de son nafs. Donc, il a la crainte d'Allah, cette deuxième qualité, c'est la crainte d'Allah et le contrôle de son nafs. Donc, ce jeune-là, il a la crainte d'Allah, ce qui fait qu'il ne fera pas le haram, et il contrôle ses pulsions, ce qui fait qu'il n'ira pas vers le haram. Comme on a dit la dernière fois, que ce soit ici, sous le regard de ses parents ou de ses professeurs ou de la communauté, ou que ce soit en France, à Paris, quels que soient les endroits, quand il n'y a pas le regard des gens, où il peut faire ce qu'il veut sans qu'une personne ne lui fera des reproches. S'il contrôle, il sait contrôler ses pulsions, il a la crainte d'Allah de son cœur, quel que soit l'endroit, quel que soit le degré de fitna, les sources de turpitude de la personne, ne fera pas des péchés parce qu'il a la crainte d'Allah dans son cœur et il sait contrôler son nafs et ses pulsions. Également, celui dont le cœur est attaché à la masjid, c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah, qui fait qu'il ne va pas dans les endroits haram, il reste uniquement dans les endroits où il y a la bénédiction d'Allah. Celui qui donne un sadaqa, il a la crainte d'Allah bien sûr. Celui, hein, ça c'est magnifique, celui qui reçoit les avances d'une femme qui est belle, et le hadith précise, une femme qui est belle et une femme d'une grande famille. Comprenons que c'est pas quelqu'un, hein, c'est quelqu'un d'une grande famille qui fait qui fait une proposition à quelqu'un, et c'est uniquement la crainte d'Allah qui fait que la personne n'accepte pas le péché. Ça c'est exceptionnel, on développera ça par la suite. Et celui donc, comme on a dit tout à l'heure, qui pense à Allah et qui pleure, hein, les ulama disent que pour atteindre ce degré de khushu', pour atteindre ce degré de dévotion, de concentration de l'ibada et pleurer par amour pour Allah, il faut atteindre un haut degré de taqwa. Celui qui est ouvert à tous les péchés, il ne pourra pas pleurer par amour pour Allah. Parce que ça, c'est un état spirituel qu'Allah accorde à qui il veut, quand il veut. C'est comme une gratification. C'est comme une récompense pour quelqu'un qui vit pour Allah, que lorsqu'il lève les mains, il y a des larmes qui coulent et il pense à Allah comme si il est devant le trône d'Allah. Mais ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir un rythme de vie. Il faut avoir, pas une hygiène de vie, mais une, voilà, on va dire une hygiène spirituelle qui fait que la personne est réglo dans ses obligations et que la personne s'éloigne du haram. Et là, Allah Azza wa Jal va le gratifier par ses états d'esprit, ses états de iman, qui fait qu'il pourra pleurer par amour et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, les ulama disent que il y a une règle en arabe qui dit que al-jaza'u min jinsil 'amal, Allah Azza wa Jal récompense ces personnes en fonction de leur attitude. C'est-à-dire que la personne qui, c'est cette catégorie de personnes qui avaient la crainte d'Allah dans leur cœur, comme ils avaient la crainte d'Allah dans leur cœur, Allah avait promis que celui qui vit avec la crainte d'Allah dans son cœur, le jour de la résurrection, cette personne aura la tranquillité. Vous vous souvenez du hadith qu'on avait dit plusieurs reprises, inni la ajma'u ala 'abdi khawfaini aw amnaini, faman khafani fi dunya amantuhu fil akhirah. Allah Azza wa Jal ne met pas deux craintes ou deux quiétudes dans le cœur d'une même personne. C'est-à-dire que celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur, Allah lui promet la tranquillité dans l'au-delà. Ben, c'est le cas. Celui qui a vécu avec la crainte d'Allah dans son cœur, ben, le jour de la résurrection, Allah lui accordera la quiétude, la tranquillité. Et quel homme plus tranquille et plus heureux que celui qui est invité pour être sous le trône d'Allah le jour de la résurrection. Deuxièmement, ils avaient la sincérité de leur cœur. Et comme ils avaient la sincérité, vous savez, quand quelqu'un est sincère, Allah rétribue sans compter. Et quelle est l'action qui est vraiment symbolique de la sincérité? C'est le jeûne, le carême, le saum. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en rétribue. Les ulama disent parce que le jeûne, c'est une relation qui est propre entre le serviteur et son créateur. Quand quelqu'un est en état de jeûne, il n'y a pas de signe apparent. Il n'y a pas d'ostentation. C'est la seule action dans le dîn où il n'y a aucune ostentation possible. Quand quelqu'un fait un carême nafil, lundi ou jeudi, on ne sait pas qu'il a jeûné. Il ne va pas dire aux gens, m'a fait carême, non. C'est-à-dire que c'est quelque chose entre lui et Allah. Ce qui fait que cette action est beaucoup plus appréciée par Allah que les autres a'mal. Et Allah n'a pas annoncé quelle est la récompense du jeûne. Pour toutes les actions, nous savons quelles sont les thawab, les hasanat. Mais pour le jeûne, c'est spécial. Allah dit que c'est moi qui en rétribue parce que c'est quelque chose de sincère à 100%. Et donc, celui qui vit avec la sincérité, il est normal qu'Allah lui accorde une récompense spéciale qui est au-dessus du lot. Et le dessus du lot, c'est quoi le jour de la résurrection? C'est être sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Ça, il n'y a rien qui dépasse cette position, le jour de la résurrection. Et ces gens donc qui ont grandi avec l'amour pour Allah, ben Allah les rétribue en les approchant de lui le jour de la résurrection. Celui qui dans son cœur avait la proximité d'Allah, d'accord, le jour de la résurrection, il aura la proximité réelle avec son créateur, il sera proche de son créateur. Et qui peut être plus proche d'Allah que celui qui est sous l'ombre du arche, du trône de son Seigneur, le jour de la résurrection. Donc ça, c'était une petite introduction concernant le hadith sur les 7 catégories de personnes. Et bien sûr qu'on parle de l'ombre du trône d'Allah, on parle du jour de la résurrection. Et vous savez que le jour de la résurrection, le soleil sera au-dessus de la tête de toutes les créatures. Et la question qui se pose, une question de logique, quelqu'un peut se dire, oui, mais si le soleil est au-dessus de la tête des gens, un. Et deuxièmement, dans les ayats, il dit que la iwajan wa la amta, que le jour de la résurrection, il n'y a aucun endroit où on pourra trouver de l'ombre, il n'y a pas d'endroit surélevé ni de crevasse. Mais comment est-ce que dans un endroit qui, on sait que la terre de la résurrection, elle est aplanie, c'est une plaine, d'accord? Comment un soleil qui a quelques mètres au-dessus de la tête des gens, comment peut-on trouver une zone d'ombre? C'est impossible. Et ça, les ulama disent que ça nous fait comprendre que le jour de la résurrection, encore une fois, ce ne sont pas les règles physiques du dunya qui sont appliquées. Un endroit peut être inondé de soleil, mais Allah décide que cet endroit-là, il n'y a pas de soleil. Même si physiquement de ce dunya, ce n'est pas possible. Mais le jour de la résurrection, ce sont d'autres règles. C'est les règles de l'au-delà. Les règles du monde de l'invisible et non pas les règles du monde du visible. Notre prophète, le Coran, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ, que le jour de la résurrection, la terre, tout est changé. C'est un changement dans tout ce qu'on peut imaginer et ce sont là les règles de l'au-delà. Mais en finalité, Il y a des gens qui vont débattre, oui, mais c'est possible, oui, mais c'est pas possible, oui, mais c'est une métaphore, c'est pas vrai. Mais en finalité, mes chers frères, après tous les débats, les gens qui parlent beaucoup, je l'ai dit, malheureusement. Allah Mustan, il y a des fois, on perd beaucoup d'énergie à répondre aux questions des gens. Et des questions qui n'ont souvent pas d'intérêt. Parfois, il y a des gens qui parlent du dîn, mais c'est pas pour se rapprocher d'Allah, mais ils ont une thèse. Il y a des gens qui ont des thèses sur la religion. Par exemple, il y a des gens qui se disent que, ben, je fais le dhikr, je pense à Allah dans mon cœur. Allah est dans mon cœur, lui, de toute façon. Et il se rase à barbe, il se machin, et il est comme n'importe qui, pas tout le monde, comme n'importe qui. Famille, avec la femme qui sort les cheveux au vent, les enfants qui n'ont aucune tenue islamique, il n'y a pas la notion de pudeur. Mais pour lui, il se sent waliyullah. Pour lui, il est un waliyullah. Malheureusement, c'est un piège de shaitan. Pour lui, il se dit que je pense, mon Allah est dans mon cœur tout le temps. État de spiritualité, élévation spirituelle et tout, et des discours. Ça, malheureusement, c'est un piège de shaitan qui fait qu'il persuade les gens qu'ils sont dans le vrai. Alors que shaitan a enlevé de leur cœur la notion du haram. La personne va faire des choses qui sont illicites. La personne va tolérer que sa famille n'accomplisse pas les obligations et reste dans l'illicite. Mais il est persuadé qu'il est dans le droit chemin parce que dans son cœur, il sent la présence d'Allah. Wallahu musta'an. Il y a un livre d'Ibn Qayyim qui s'appelle Talbis ou Iblis, qui est traduit en français. Lisez-le et voyez comment Shaitan a détourné des gens depuis l'époque d'après les Sahaba en leur faisant croire qu'ils sont dans le droit chemin alors qu'ils sont en train de faire, de répéter, cumuler erreur par erreur. Après tous ces débats, les ulama disent que malgré tout ce qu'on peut dire, les gens ils vont diverger sur différents maslahs. La finalité, le résultat, c'est quoi ? وَمَنْ كَانَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ نَجَى مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Il dit que celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, c'est lui qui est le chanceux. Après, il parlait beaucoup de paroles, beaucoup de bayan, mais celui qui a eu les qualités, amour pour Allah, crainte d'Allah, sincérité, et avec ses qualités, il faisait donc les actions. Parce que celui qui a ses qualités, obligatoirement, il va faire les actions. D'accord ? Il fait les actions et celui qui a ses qualités, obligatoirement, il s'éloigne du haram. Obligatoirement, il a la présence muraqabatullah dans son cœur en permanence. Donc celui-là qui est sous l'ombre du trône d'Allah, c'est l'homme le plus heureux, le jour de la résurrection. Parce que, un, il est protégé du soleil de la résurrection, mais il est également protégé de tout motif de crainte. Celui qui est à cet endroit, il sait qu'il est protégé par Allah, il est sous la protection d'Allah et que les étapes qui vont arriver, il aura l'aide d'Allah jusqu'à l'accès au paradis. Je pense qu'on va s'arrêter à là, Inch'Allah, parce qu'il y a un autre chapitre à développer. Avant de parler du premier point, Imam Adil, hein, on voulait parler du Arsh, le trône d'Allah. Connaître, comprendre, pas connaître, on ne connaît pas Allah. Comprendre la grandeur d'Allah en étudiant la grandeur de ses créatures. Et une des choses les plus exceptionnelles qu'Allah a créées de ses mains, et une des choses, pardon, les plus anciennes également qu'Allah a créées de ses mains, c'est le Arsh. C'est le trône. Alors c'est très long, c'est un point qui nécessite au moins 20 à 25 minutes. Je pense que vous n'aurez pas et je n'aurai pas la concentration pour développer ça, parce que ça il faut écouter avec beaucoup d'attention. Il y a des hadiths qu'on dit, il y a des hadiths qu'on ne dit pas. Parce qu'il y a des hadiths qui dépassent trop notre entendement, notre logique, et qui fait que si on explique que le trône est comme ci, comme ça, peut-être que notre faiblesse de iman peut nous faire émettre des doutes. Mais comment? C'est pas possible et tout et tout. Quand on parle d'un ange, hein, je vous donnerai juste un exemple. Quand on parle du arche, alors je vous dis, hein, quand on parle du arche, premièrement on parle de la quelques hadiths qui décrivent le arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit un hadith que parmi les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, ma bayna ka'bi ahadihim ila asfali qadamayhi, entre sa cheville et le bas de ses pieds, cet ange il y a masiratu 500 am, une distance de 500 années. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde peut écouter ce genre de discours? Entre Ka'b, entre sa cheville et le bas de ses pieds, il y a une distance de 500 années. Ça veut dire que, attends, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est trop fort. Oui, c'est trop fort. À notre niveau, c'est trop fort. Parce que là, nous parlons des créatures de l'invisible. Nous ne parlons pas des créatures du monde qu'on connaît. Nous, ce qu'on connaît de plus grand, c'est quoi? Allez, on va dire un diplodocus, 30 mètres. Ou une baleine bleue, qui fait 30 mètres également. Mais là, on n'est pas dans le monde du visible, là. Quand on dit que ce dunya par rapport au premier ciel, c'est comme hadith qu'on a déjà dit souvent, une personne qui prend sa bague et qui jette fi ardin fala sur un terrain vague, ça c'est cet anneau avec le champ, d'accord, ici un chancan, vous jetez un anneau d'un chancan, déjà on ne trouvera pas les jamais. Et deuxièmement, si vous le comparez, c'est incomparable avec ce champ. Ça c'est le dunya par rapport au premier ciel. Le premier ciel par rapport au second ciel, pareil, même métaphore. Le second par rapport au troisième, le troisième au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, le septième par rapport au kursi, le kursi par rapport au arsh, au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yali, c'est un truc incompréhensible. C'est la grandeur du akhirat. De l'au-delà, ça c'est le monde de l'invisible. Et lorsqu'on parle des anges, des malaïkas qui portent le trône d'Allah, c'est exceptionnel. Et il faut comprendre en même temps que, mais ça c'est difficile à comprendre, je ne sais pas s'il faut expliquer ou non. En même temps, Allah a 8 anges qui portent son trône, mais en même temps Allah n'a pas besoin de ces anges qui portent son trône. En même temps, Allah a 8 malaïkas qui portent son trône, mais en même temps, ces anges-là, leur rôle, c'est superficiel, on pourrait dire. Allah n'a pas besoin de ces malaïkas qui portent son trône. Parce qu'Allah, il est as-samad. Allah, il a besoin de personne. Même si Allah a décidé d'anéantir tout ce qu'il a créé, c'est rien ça. Allah n'a besoin de personne. On va voir également qu'il y a des anges. Il y a un hadith qui est magnifique, qui nous font comprendre comment nous sommes rien. Inna malakan lamma stawa ar-rabbu ala arshihi sajada lam yarfa'a ra'sah hatta taquma as-sa'ah fataqulu al-mala'ikatu subhanaka lam na'budka haqqa 'ibadatik. Allahu akbar. Hadith magnifique. Dans lequel Allah Azza wa Jalla, le prophète Ali dit que il y a un ange qu'Allah Azza wa Jalla a créé et qui depuis où Allah s'est istawa ala al-arsh kama yaliqu bihi subhana, depuis qu'Allah s'est établi sur son trône, cet ange là est en sijda et il reste lam yarfa' ra'sa, il n'a pas levé sa tête depuis qu'il a été créé, depuis qu'Allah s'est établi sur son trône, et il restera de cette position hatta taqum as-sa'a, jusqu'à la fin du monde. Et lorsque il y aura la fin du monde, là cet ange se relèvera, il dira subhanak, toute louange et pureté reviennent à toi ou Allah, lam na'budka haqqa 'ibadatik, on n'a pas fait ton adoration comme il le fallait. Ça c'est les malaïka qui sont proches du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un monde extraordinaire. C'est l'invisible. Mais ce sont des descriptions qui dépassent l'entendement. Mais parfois, on a besoin de ce genre de texte pour qu'on réalise quand je fais Salat al-Isha, devant qui je me prosterne. Quand je fais Salat al-Isha et que je pense déjà à l'émission qu'il y a ce soir, Capital, je ne sais pas quoi, ou je sais pas quoi, ou l'actualité à 22h, 23h, je pense à ça, ou je pense demain, je dois amener les enfants, docteur, dentiste, etc. Devant qui je suis en train de me prosterner? Qu'il y a des anges qui, depuis qu'ils ont été créés, depuis Allahu Akbar, je ne sais pas quand, jusqu'à la fin des temps, ils sont en sijda, et quand ils se relèvent avec regret et remords, ils disent, Allah, on n'a pas fait ton ibadah comme tu le mérites, ya Allah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on est rafil? Comment on est insouciant dans nos adorations? Wallahi, ce genre de texte, nous permet de comprendre quelle chance déjà qu'Allah nous donne de faire un sijda devant lui. Comment nous devons être reconnaissants pour avoir le tawfir? Imaginez, il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés jusqu'à leur mort, ils ne se prosterneront jamais devant Allah. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont eu de ce dunya? Quel intérêt de vivre? Si quelqu'un ne s'est pas prosterné une fois, celui qui n'a pas iman, il n'a jamais posé son front devant son créateur. Allah Akbar. Quel khassar! Vraiment, c'est l'essence même de la création de l'homme, c'est ça. Ya'budun, adorer Allah. Celui qui n'a pas eu tawfiq, Allahu Akbar. Khassar, celui qui n'a pas eu tawfiq de mettre son front une fois sur le sol devant son créateur, qu'est-ce qu'il a obtenu? Quelle faïda il a eu de son passage sur ce dunya. Alors que moi, musulman de naissance, ou musulman durant ma vie, Allah m'a donné hidayah, je me prosterne 5 fois par jour. Quelle chance Allah m'accorde. Comment je dois faire qadar de ça? Parce qu'attention, il y a des gens qui passent leur vie dans l'adoration d'Allah, et puis Allah voit dans cette personne quelque chose qui le déplaît, et Allah chasse cette personne. Soit la personne quitte le dîn, soit la personne s'éloigne des masajid. Il y a des gens comme ça. J'en ai connu des gens qui, alhamdulillah, étaient des gens réguliers dans leur ibadah. Et puis du jour au lendemain, on les perd de vue. Ils viennent plus à la masjid, on ne les voit plus. Et leur apparence aussi a changé. La hidayah, c'est dans les mains d'Allah. Il y a des gens qui... Quelqu'un me rappelait dernièrement, il dit que... Vous connaissez Marmela, on rappelle qu'il était jeune. Lui, désordre numéro 1, brigand, bandit numéro 1, bandit de jeunes bandits, wanted partout. Maintenant, le Mohamed Damas dit avec la barbe, le Mohamed fait salat, il s'est marié, il a des enfants, il s'est posé, il vient à la masjid. Mais qui ça pas tiré de Bouglin, c'est réel qui le là. C'est Allah qui a illuminé son cœur. C'est des gens qu'on ne pouvait pas approcher. On ne pouvait pas approcher. Il n'avait pas fait d'un avec lui. Il ne supporte pas les religieux. Du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, après quelques temps, la personne réapparaît et posée, le visage reposé, avec quiétude, vie sociale intégrée, famille, enfants, et il vient à la masjid 5 salades par jour. Mais, mes chers amis, il y a beaucoup de gens comme ça. À masjid Sani même, je pourrais vous montrer ces gens-là, quel était le ahwal avant, et comment c'est comme si qu'automatiquement, ils ont retrouvé le droit chemin. Ça, c'est la hidayah qu'Allah accorde à qui il veut. Ça, c'est exceptionnel, ça. Mais le contraire aussi existe. Ah oui. Quand on demande d'aider nos salat al-mustaqim, guidez-nous vers le droit chemin, ya Allah, c'est de nous garder istiqam à ce droit chemin. Pour ça, me dit qu'il y a des gens qui adorent Allah toute leur vie, mais Allah décide qu'à la fin de leur vie, ils font une action des ahlinar et ils sont parmi les ahlinar. Il y a des gens qui, durant toute leur vie, ils font adoration d'Allah, mais leur nom est déjà écrit sur les gens de l'enfer, la porte du jahannam. Ça, c'est la hidayah dans les mains d'Allah. Allah seul décide qui le met dans le paradis et qu'il met dans l'enfer. Et quand j'avais cité ça, il y a une personne qui m'a demandé, Daska, pourquoi faire les adorations? Faire des adorations en demandant à Allah d'accepter. Et la réponse est claire, c'est quand tu fais les adorations. Quelle est l'adoration que tu fais le plus par jour? Salah. Et qu'est-ce que tu lis le plus dans la salah? Et dina salat al-mustaqim dans chaque rakat. Ben mon ami, tu fais ibadah. Tu fais l'adoration, mais avec al-khawf wal-raja. En même temps la crainte, en même temps l'espoir que tout est dans les mains d'Allah. Il n'y a rien qui est acquis. Et tout le temps, oh Allah, gardez-moi de le droit chemin. Et quand je lève mes mains, oh Allah, donne-moi la mort avec iman, donne mes enfants la mort avec iman, que tu sois satisfait de moi quand l'ange de la mort reprend mon âme. C'est ça. Pourquoi adorer Allah? Fais les adorations et demande istiqama de le droit chemin jusqu'à mourir. Mes chers frères, donc, on a besoin de ce genre de texte qui parle du arsh, du trône, des malaïkas, du monde de l'au-delà, du monde de l'invisible, pour qu'on comprenne que, un, on n'est rien. Deux, que comme on n'est rien, Allah nous a accordé cette chance, on doit être reconnaissant envers Allah et demander à Allah de nous garder de ce droit chemin et de nous donner la mort de le droit chemin et nous donner l'honneur d'être parmi les élus le jour de la résurrection. Qu'Allah nous accepte.